BFM Radio.
Dimanche 9 octobre, il est 13h, affaire suivante numéro 288. Bonjour Dominique, soyez les bienvenus. Deux semaines après l'interpellation de Mohamed Amra en Roumanie, vous saurez tout du commando qui a aidé le narcotrafiquant à s'évader en tuant deux agents pénitentiaires. Vous saurez tout de sa cavale et vous saurez tout de ses projets criminels.
Erreur judiciaire, Ronald, ou crime presque parfait? Affaire suivante revient cette semaine sur un fait divers exceptionnel. L'assassinat en 2012 de Sylvie Fumadel, épouse Darcy. Son mari, François Darcy, a été condamné à deux reprises par une cour d'assises pour le meurtre de sa femme et il continue, aujourd'hui encore, à clamer son innocence. On reçoit tout à l'heure l'avocat de sa famille qui sera en plateau avec.
Et puis Dominique, un anniversaire, c'est à 21h ce soir sur RMC Découvert, 300e numéro de Faites Entrer l'Accusé, émission consacrée à l'affaire Pastor, héritière d'une famille monégasque, fortune estimée 12 milliards d'euros, Hélène Pastor tuée après une fusillade à la sortie d'un hôpital à Nice. Vous découvrirez les images des aveux filmés du commanditaire, en l'occurrence le gendre.
Exactement, affaire suivante, c'est parti Ronald.
Voilà donc pour le programme. Ravi de vous retrouver, Dominique, pour de nouvelles aventures. Nous sommes le 14 mai 2024 au péage d'Incarville. Un commando attaque un convoi et permet l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra. 9 mois plus tard, 22 février 2025, Amra est arrêté en Roumanie. Que s'est-il passé pendant l'intervalle, pendant ces 9 mois? Qui a permis l'évasion et la cavale d'Amra? Quels étaient ses projets? La galaxie Amra, c'est une enquête de Pierre-Louis Bousset pour Affaires suivantes.
C'est dans une luxueuse villa du sud de l'Espagne que les forces de l'ordre ont décidé d'intervenir. Leur cible, cet homme. Il se nomme Fernando D. Il est suspecté d'être l'un des 5 membres armés du commando mortel ayant conduit à l'évasion de Mohamed Amra le 24 mai 2024 au péage d'Incarville. À ce stade, 27 personnes ont été interpellées dans l'enquête autour de la fuite du trafiquant de drogue. Des membres d'un réseau dans lequel chacun aurait joué un rôle bien déterminé. Parmi les individus arrêtés, Jean-Charles P., 29 ans, incarcéré au moment de l'évasion, est mentor présumé de Mohamed Amra. Pendant la cavale, les deux hommes auraient beaucoup échangé, notamment au sujet du trafic de stupéfiants. Les autorités ont également interpellé deux guetteurs présumés, deux hommes de la même famille qui se seraient installés sur une terrasse en face du tribunal judiciaire de Rouen le jour de l'évasion. Vêtus de noir et dissimulés par des capuches, ils auraient alerté les membres du commando du départ du convoi pénitentiaire. Il y a également les logisticiens, de nombreux individus âgés d'une vingtaine à une trentaine d'années, suspectés d'avoir volé des voitures impliquées dans l'évasion ou installé de fausses plaques d'immatriculation. Pour les enquêteurs, une partie d'entre eux aurait aussi joué un rôle dans d'autres tentatives d'évasion de Mohamed Amra.
Et pour en parler, nous accueillons ensemble Dominique, Maxime Brandstetter. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Journaliste police justice BFM TV. Vous avez enquêté évidemment sur ces 9 mois de cavale et vous avez des informations extrêmement intéressantes. Bonjour Joachim Pueyo.
Bonjour.
Ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis, maire PS d'Alençon, c'est dans l'Orne. La galaxie Amra, Maxime, c'est le bon qualificatif, vous qui avez enquêté, qui avez écouté ce qu'avait dit la procureure de la République. On peut parler véritablement de galaxie pour expliquer à la fois l'évasion et la cavale?
Ce qui est sûr, c'est que les enquêteurs reconnaissent que la plupart des personnes impliquées dans l'évasion, en tout cas impliquées dans le noyau dur, sont des proches d'Amra qu'il connaît depuis un certain temps. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, on a évoqué la Black Manjak Family, peut-être qu'on y reviendra, qui font partie de cette organisation qui serait une organisation criminelle. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est d'être des proches de Mohamed Amra. Après, il n'y a pas que ses proches, parce qu'on l'a dit, là, il y a 28 personnes mises en examen. Il y a aussi beaucoup de petites mains. Alors, la procureure de Paris refusait d'employer ce terme parce qu'elle disait ils sont tous autant responsables, donc je refuse le terme de petites mains. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont été recrutées de diverses manières, des réseaux sociaux, des téléphones portables que maîtrise extrêmement bien Mohamed Amra et qui ont participé. Et c'est ainsi que cette organisation a permis ce drame, cette évasion meurtrière.
On est dans l'affaire Amra avec cette Black Mafia de quartier.
Black Manjak Family.
Dont le rôle restera à préciser. Pour l'instant, elle n'est pas forcément liée à l'évasion de Mohamed Amra.
Alors, il y en a eu d'autres. Il y a eu Redouane Faïd, mais c'était une histoire de famille. Il y a eu Yvan Colonna, c'était une histoire de Corse. Hein, de... mmh. Puis il y a une histoire aussi où ils sont très nombreux, c'est l'affaire Ilan Halimi avec Youssouf Fofana.
Le gang des
barbares. C'est encore une histoire de cité, gang de barbares. C'est la pierre plate à Bagneux. Et là, ils sont 26 ou 27 dans le box. C'est un peu le même réseau, c'est un peu des petites mains, des tout petits, des gens qui ont fait une petite bricole pour aider, qui ont apporté à manger, qui ont apporté des provisions. Et puis, il y a les plus importants. C'est un peu un réseau comme ça, Amra ?
C'est un petit peu un réseau comme ça. En tout cas, c'est un réseau qui se connaît depuis longtemps, avec visiblement, au moins pour le noyau dur, ce qu'on pourrait définir comme étant le commando, comme c'est dit dans le sujet, des personnes qui sont prêtes à attaquer un convoi pénitentiaire, à ouvrir le feu, à tuer des personnes, donc risquer de passer le reste de leur vie en prison, deux agents pénitentiaires qui sont prêts à le faire pour Mohamed Amra. Alors, restera à savoir exactement pourquoi, parce que c'est des proches, donc sans doute, est-ce que c'est simplement par sympathie? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des intérêts derrière? On l'a dit, il y a Mohamed Amra, mais il y a aussi un certain Jean-Charles P. Que beaucoup disent, il est le mentor de Mohamed Amra. Il est aussi aujourd'hui mis en examen dans cette affaire, placé à l'isolement. On se demande quel a été son rôle dans cette histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque des ficelles. Il reste à savoir comment il y a eu l'argent déjà pour financer cette cavale, et surtout, quel était exactement le but? Est-ce que c'est seulement parce qu'on voulait faire évader Mohamed Amra, ou est-ce qu'il y avait d'autres projets? Il a aussi continué ses activités criminelles à l'extérieur. On parle
vous allez nous expliquer ça. De... Mais Joachim Pueyo, on va parler dans un instant d'Antonio Ferrara, que vous avez bien connu, le roi de la belle, parce qu'en matière d'évasion, il a effectivement franchi un nouveau cap, comme ça a été le cas au péage d'Incarville. Mais est-ce que pour vous, on en parle souvent avec Dominique Rigny, est-ce que ces gens-là, c'est le nouveau grand banditisme, ou ce que qu'on appelle le grand banditisme? Est-ce qu'Amra aujourd'hui, c'est le Ferrara d'hier, selon vous? Est-ce qu'il y a des passerelles?
Oui, c'est les nouveaux banditismes. Il y a 20 ans, c'était plutôt les grands braqueurs, comme Ferrara, qui était un braqueur d'exception, en fin de compte. Hein. Il était
spécialiste. Qui vient de retomber, d'ailleurs.
Il était spécialiste dans les explosifs, il braquait les fourgons qui transportaient des sommes considérables. Donc, c'était ça qui marquait le grand banditisme il y a une vingtaine d'années. Actuellement, c'est quasiment plus le cas. Ça l'est un petit, quand même en marge, mais c'est plutôt les narcotrafiquants qui sont à la tête des réseaux criminels organisés. Et puis, effectivement, on a pu remarquer, enfin, moi, j'ai pu remarquer que la haute délinquance, souvent recrutée dans leur environnement dans lequel ils ont toujours vécu. Donc, dans un quartier, Ferrara, c'est la banlieue sud, par exemple. Donc, ensuite, effectivement, il y a des liens d'amitié, il y a surtout des liens financiers. Hein. Le chiffre d'affaires de la drogue en France, c'est plus de 3 milliards, 3-5 milliards d'euros.
Estimé, c'est
donc, on a du mal. Donc, avec 250 000 personnes qui dépendent de ce chiffre d'affaires. Donc, c'est considérable. Donc, effectivement, ensuite, eh bien, on organise un réseau. On sait que c'est très intéressant pour ceux qui sont à la tête des réseaux. Donc, oui, il faut faire la guerre aux narcotrafiquants. Ça me paraît indispensable. Et c'est pour ça que, pour ma part, le message du ministre de la Justice, il est important. Il fallait qu'il fasse ce message pour dire c'est vraiment un sujet important, parce que même dans les villes moyennes, nous sommes confrontés effectivement au trafic de stupes, avec peut-être des petits trafiquants, mais qui peuvent devenir au fil des mois des têtes de réseau.
Et le moteur, hein, comme on parle de Nino Ferrara, on parle de Redouane Faïd, on parle de Christophe Kider, le moteur, c'était pas du tout la drogue. Ces gens-là ne touchait pas à la drogue, c'était l'argent, celui des fourgons, celui des banques, celui des braquages. Donc là, le mobile, c'est autre chose maintenant.
Oui, alors c'est sûrement aussi l'argent derrière, parce que peut-être qu'aujourd'hui...
C'est la façon de pas toucher à la drogue pour eux, en tout cas, celui-là.
Oui, c'est ça. Là, évidemment, il y a du trafic de stupéfiants dans Mohamed Amra, on l'a dit.
Il voulait continuer?
Il continuait pendant sa cavale, donc pendant qu'il était à différentes plans, qu'il en a une à Compiègne, à Rouen au moins, et avant de partir en Roumanie, il y a eu des échanges, alors il était très organisé, hein, avec des stratégies pour éviter de se faire repérer sur les messageries cryptées. Et grâce à ces stratégies, il continuait des échanges autour de la drogue. Il a notamment évoqué l'idée de reprendre un point de deal qui se trouve à Saint-Nazaire, qui appartenait à un des membres suspectés du commando qui est décédé. Il a discuté de projets pour faire importer de la cocaïne d'Amérique du Sud dans un des ports français. Il a essayé d'organiser des transports de drogue. Il a parlé avec d'autres organisations criminelles. On parle de la DZ Mafia, on parle de choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que pendant sa cavale, il était actif et visiblement, il voulait faire de l'argent. Est-ce que c'est pour la financer ou est-ce que c'est pour autre chose?
Avant d'évoquer son évasion, sur sa cavale, est-ce qu'on en sait plus désormais sur ce qu'il a fait, comment il l'a fait, avec qui il l'a fait, à quel endroit il l'a fait?
Sur la cavale précisément, on sait qu'après l'évasion d'un Carville, il va visiblement dans une première planque qui se trouve à Compiègne, dans une rue assez banale, une rue pavillonnaire assez banale. On ne sait pas s'il y a eu d'autres étapes. On connaît l'étape de Compiègne et l'évasion d'un Carville. Est-ce qu'il y a eu un passage de rebond? Est-ce qu'il s'est caché ailleurs? On ne sait pas. On sait au moins qu'il y a une deuxième planque à Rouen. Et on sait qu'après cette planque à Rouen, il y a ce départ en Roumanie qui date de début février, où en fait il est parti visiblement avec deux voitures jusqu'à la frontière allemande. C'est là que les enquêteurs le repèrent parce que, vous savez, ils observaient beaucoup de téléphones portables et ils envoient un qui est suspect, qui se déplace. Et il va traverser toute l'Europe jusqu'à la Roumanie. C'est là que les enquêteurs vont réussir à le repérer et l'interpeller. C'est ce qu'on sait grosso modo de sa cavale, mais il y a encore des questions qui se posent. Qui exactement l'a aidé? Est-ce qu'il y a eu d'autres rebonds? Il y a eu à un moment donné la piste en Espagne. Les policiers français ont été en alerte parce qu'ils pensaient qu'il était dans une villa espagnole. Ils ne l'ont pas vu. Est-ce qu'il n'y était pas, qu'il est revenu? Est-ce qu'il n'y a jamais été? Ça reste à préciser, mais on sait, voilà, il a eu ce parcours-là et ce que je vous évoquais tout à l'heure, des activités criminelles qu'il a au moins continué d'essayer. Aujourd'hui, son nom, il est évoqué dans 3 affaires d'assassinat auxquelles il aurait participé, notamment pendant sa cavale.
Pour lesquelles il va rendre des comptes.
Le nom est évoqué, pas forcément soupçonné, mais c'est parce qu'il échangeait sur des techniques de règlement de comptes, des sortes de conseils en criminalité, avec notamment des groupes, et c'est pour ça que son nom se retrouve dedans.
Quand on parle de l'évasion de Mohamed Amra, on a regardé avec Ronald et avec Marion Bordier qui nous aide en régie à préparer cette émission, et on se dit évasion, combien d'évasion? Et là, Ronald trouve le chiffre.
Alors 2021, c'est le Conseil de l'Europe qui donne le chiffre de 734 évasions par an en France.
Et nous, on se pose la question, et vous allez nous éclairer, vous allez nous éclairer, c'est qu'en fait, dans les évasions, il y a les non-réintégrations. Parce que quelqu'un qui sort en permission le vendredi soir, qui est en prison, qui est au bout de sa peine, qui sort le vendredi soir, qui doit rentrer à la prison le dimanche soir, par exemple, il a 2 jours pour se réadapter, et c'est bien normal, à la vie à l'extérieur de la prison, s'il ne revient pas le dimanche soir, s'il ne réintègre pas la prison, c'est une évasion. Oui, donc, on a 734 évasions en une année.
Il y a très peu d'évasions d'une prison. Très peu.
Oui, mais c'est évasion, c'est terme générique.
La France est un pays les plus sûrs pour les prisons françaises en termes d'évasion. Par contre, effectivement...
D'évasion brutale, alors. Il faut qu'on fasse le distinguo. Voilà, alors, vous les appelez comment, ces évasions?
Comme Ferrara qui s'est évadé, par exemple, avec effectivement des moyens considérables.
On va vous proposer, on a recherché évidemment les images, l'évasion de la prison de Fresnes d'Antonio Ferra. C'est pas une évasion, c'est une attaque de prison. Monsieur, je veux que vous nous racontiez, on va voir les images.
C'est une des premières fois qu'on voit une attaque de prison, mais Ferrara avait bien observé les points faibles de la prison de Fresnes. Et volontairement, il avait commis une infraction pour aller au quartier disciplinaire, parce que c'était l'endroit le plus faible qu'on avait déjà nous repéré, en tant que directeur et en tant que, moi j'étais inspecteur à l'époque, qu'on avait repéré. Donc il avait bien observé, et ensuite effectivement, avec un commando de 10 personnes, des brassards de police, lance-roquettes, FAMAS, on attaque un mirador à coups d'explosifs, et il a réussi à corrompre également un agent qui lui a fait parvenir des explosifs dans sa cellule, vous vous rendez compte? C'est vraiment une organisation très pointue. Ferrara était vraiment très, très bien organisée.
Monsieur Payot, vous dites, alors, on savait que sa cellule, alors, il était à l'isolement, à Fresnes, dans le quartier d'isolement, dans la cellule numéro 9, qui était celle qui était la plus proche de cette fameuse porte des livraisons par où ses copains sont venus chez, ou quelque chose comme ça.
C'est pas
vous saviez ça, pourquoi?
Alors, moi, j'étais pas directeur quand, à l'époque.
Vous étiez inspecteur.
Oui, mais le quartier disciplinaire de Fresnes se trouve au bout de l'établissement. C'est pas le quartier d'isolement, mais donc c'est un quartier
isolé, mais pas l'isolement en fait.
Oui. C'est un quartier disciplinaire, là où les détenus sont pieds nus. Mais on sait très bien, il y a une porte pour faire rentrer effectivement les camions, pour fournir les atouts, etc. Et là, effectivement, malgré que cette porte soit quand même observée par un mirador armé, c'est-à-dire que vous avez un agent armé dans un mirador. Mais donc, je crois que c'était un des points faibles. Depuis, on a dû renforcer, effectivement.
Ils ont tiré sur le mirador. Ils ont posé une charge creuse, la spécialité de Ferrara, sur la porte, ceux qui l'ont évadé. Et ils sont venus le chercher comme
ça. Mais on a eu des évasions spectaculaires avec des armes qui ont pu rentrer dans l'établissement pénitentiaire, avec des maisons centrales.
Kider à Moulin-Rizeur.
Il a tenté, alors j'étais directeur à l'époque, il a tenté de s'évader. Il a pas réussi à s'évader parce que c'était un hélicoptère qui s'est pointé au-dessus d'une cour de promenade, mais il manquait peut-être 30 centimètres pour qu'il attrape l'échelle. Et donc ensuite, effectivement, ils ont lancé de l'hélicoptère dont le pilote avait été pris en otage, des armes. Et là, effectivement, Kider a pris en otage avec son complice, 3 agents. Et c'était le début d'une prise d'otage très longue qui s'est malgré tout bien terminé à la fin, quoi. Mais Kider avait également mis en place toute une organisation pour s'évader.
Parce que Kider n'est pas un abruti qui tire sur tout le monde.
Non,
on va le dire.
Non, voilà. Non, c'est quelqu'un qui n'a.
C'est important aussi de lui reconnaître.
Et Kider, comme certains détenus qui font partie du grand banditisme, ont souvent des bons comportements en prison.
Cette semaine, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a présenté les lieux dans lesquels seront incarcérés les 200 plus gros narcotrafiquants, notamment de France, Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. C'est inspiré de la lutte anti-mafia en Italie. Il y aura des grillages très resserrés, il y aura des salles de visioconférence, notamment parmi les mesures pour éviter les extractions. Parce que c'est ce qu'on a vu à Incarville le 14 mai 2024, l'extraction, c'est le point faible pour empêcher les malfaiteurs, les narcotrafiquants, les islamistes, ce que vous voulez, mais de s'évader. Ça reste le point faible ?
C'est toujours des points délicats. Une extraction, d'ailleurs, on a eu beaucoup d'évasions également à partir des hôpitaux. Lorsque le détenu sait qu'il a une consultation dans un hôpital, il peut organiser son évasion.
Des 734
les extractions, c'est vraiment des points faibles. C'est pour ça qu'il faut bien évaluer la dangerosité du détenu et ensuite mettre en place une escorte. Il y a plusieurs niveaux d'escorte, mais pour les narcotrafiquants, pour effectivement ceux qui ont fait la une des journaux par rapport à leur crime, c'est l'escorte la plus importante, la plus sécurisante qu'il faut mettre en place, avec des agents bien sûr qui sont armés, soit avec des iris, ou soit effectivement des agents de la sécurité publique. Et là, dans le fait qu'on va transférer 100 détenus à Vendin-le-Venin, puis ensuite à Condé-sur-Sarthe, bien les transferts sont toujours des moments très délicats. Il faut choisir le parcours, pas forcément un parcours classique, et puis bien évidemment mettre en place une escorte très pointue. Lorsque, par exemple, un exemple, lorsque Ferrara a été extrait dans les hôpitaux pour la cour d'assises, et je vous assure que, en tant que directeur, avec la police, on avait vraiment travaillé pour que l'escorte soit inviolable. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
Est-ce que si Ferrara s'évade pendant son transfert ou l'affaire Amra, le directeur de prison, il fait partie quand même des personnes qui vont se faire taper sur les doigts.
Normalement, il y a une inspection qui se déplace. On regarde effectivement les conséquences et si effectivement il y a eu des défaillances dans la sécurité, effectivement, il est responsable. Moi, quand j'avais, vous savez, à Fleury, vous aviez les détenus les plus dangereux de France, qui étaient en instance de passer dans les cours d'assises. Et donc, on avait un bâtiment très très sécurisé. C'est le cas pour Ferrara, qu'on avait renforcé également. Mais il est bien évident que quand vous dirigez un établissement et que vous avez effectivement des détenus dont vous connaissez la dangerosité, il faut mettre tous les moyens à côté pour cette sécurité qui est indispensable.
Il y a eu une inspection, d'ailleurs, pour Mohamed Amra, qui avait conclu que finalement, sa dangerosité avait peut-être été mal évaluée à cause d'un manque de communication entre les services, à la fois les services de police, parce qu'il a d'autres affaires graves dans lesquelles il devra répondre, mais aussi des services de renseignement pénitentiaire qui avaient peut-être faute d'échanger des informations, mal évaluée, et l'escorte qu'il avait, c'était pas l'escorte la plus puissante qu'on pouvait déployer.
Et on cite leurs noms, Arnaud Garcia, Fabrice Moello, qui ont donc trouvé la mort assassiné au péage d'Incarville le 14 mai 2024. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Affaires suivantes. Dans un instant, Dominique, nous allons revenir ensemble sur un fait divers exceptionnel, l'assassinat de Sylvie Fumadel, épouse d'Arcy. Son mari, François Darcy, a été condamné 2 fois pour le meurtre de sa femme, mais il continue de clamer son innocence. C'est dans un instant.
BFM Radio.
Retour en direct sur le plateau d'Affaires suivantes. Erreur judiciaire ou crime presque parfait. Nous revenons à présent sur l'assassinat de Sylvie Fumadel, épouse d'Arcy. Son mari, François Darcy, a été condamné 2 fois pour le meurtre de sa femme, mais il continue de clamer son innocence. Pierre-Louis Bousset, Elisa Tralin.
Un bon restaurant, un hôtel de charme et 10 ans de mariage à fêter. Le week-end s'annonçait magnifique. François et Sylvie Darcy avaient besoin de se retrouver, d'oublier un peu le quotidien, les 80 000 euros de dettes et une infidélité récente. Pour cette parenthèse enchantée, ils ont choisi la vallée de Chevreuse. Un décor parfait pour une fin macabre. Il est environ 23h le dimanche 12 février 2012 quand la voiture du couple est découverte en feu sur un parking boisé. À l'intérieur, le corps de Sylvie est déjà calciné. François, lui, est retrouvé un peu plus loin, sonné par une blessure par balle à l'arrière de l'épaule. Aux enquêteurs, il raconte avoir quitté la route pour soulager une envie pressante quand ils ont été agressés mais plusieurs éléments mettent à mal ce récit. Le mari porte des traces de poudre et d'un accélérateur de feu. Et il vient justement d'acheter une combinaison ignifugée. Dans son atelier, cet amateur de tir accumule les armes et confectionne lui-même ses munitions. Enfin, les gendarmes découvrent une relation bancale. Lassée par l'attitude de son mari et ses dettes, Sylvie envisageait de divorcer. À deux reprises, en 2016 et 2018, la justice retiendra ce scénario. François Darcy aurait tué sa femme pour toucher l'assurance-vie de la défunte. Lui a toujours clamé son innocence. L'arme avec laquelle il se serait tiré une balle dans le dos n'a jamais été retrouvée.
Pour aller plus loin, nous accueillons ensemble Dominique Yves Bedouc. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille Darcy et le général François Daoust. Bonjour, merci également d'être présent, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Maître, un innocent est-il en prison, selon vous ?
Alors, un avocat se pose pas la question de cette manière-là. Il faut avoir des certitudes. Il n'y a pas de certitude sur la culpabilité, il n'y a pas de certitude sur l'innocence. Et l'avocat qui a un dossier technique sur le plan pénal doit simplement s'interroger s'il y a les éléments techniques en faveur de l'une ou l'autre thèse. Moi, je prétends qu'il y a les éléments techniques, qu'il n'y a pas les éléments techniques sur la culpabilité et que j'ai un certain nombre d'éléments qui peuvent instiller le doute.
Et si je vous réponds, mais il y a peu d'incertitudes sur sa culpabilité, mis à part un élément technique. L'arme avec laquelle il s'est tiré une balle dans le dos, c'est compliqué de se tirer une balle dans le dos. Mais si on résout cette énigme-là, il n'y a plus d'incertitude sur sa culpabilité.
Premièrement, vos services généraux,
la gendarmerie,
ont utilisé une cinquantaine de personnes avec des chiens, etc., pour retrouver cette arme. On ne l'a pas retrouvée, cette arme. On sait que Monsieur François Darcy n'a pas bougé. On sait en même temps. Alors, chacun essaiera avec la cuillère en bois qu'il a dans le tiroir de sa cuisine d'essayer de se la mettre dans le dos sans toucher le dos.
Deux précisions importantes. Il est tireur sportif. Et l'un des experts dit « c'est possible », parce qu'on retrouve l'arme chez lui, sciée avec une disqueuse, il le reconnaît d'ailleurs, et on dit « c'est possible, sans canon, sans… »
Sauf que, quand on fait un tir à bout touchant sur l'épaule, le tissu est brûlé. Mmh. Et là, les prétendus experts disent « oui, mais comme il sous-dosait ses armes en poudre, ça aurait pu ne pas brûler », ce n'est pas possible, même sous-dosé. Or, on sait qu'il n'a pas bougé. Et la question que je me pose, il y a plusieurs questions que je me pose. Quand on fait référence à l'affaire de Chevaline…
Haute-Savoie, à côté de Doussard…
5 septembre 2012, voilà. Tuerie de Chevaline.
Oui. Bon, dès que les gendarmes sont arrivés… Ils ont gelé le site, à tel point qu'ils ont gelé le site qu'ils n'ont pas vu immédiatement une petite fille ou un petit garçon caché sous les genoux d'une victime. Là, qu'est-ce qui s'est passé sur la scène de crime ? Les pompiers, les services de police, le service du SAMU, etc. L'eau, tout a été saccagé. Donc, on n'a pas pu faire de constatation. Et... pardonnez-moi, général, je trouve que on est parti. L'enquête, ce qui est son droit le plus strict, elle est partie sur une conviction, la culpabilité. Donc elle n'a recherché que cela. Mais nous savons que pour des affaires récentes, ne serait-ce que celle d'avant, qu'est-ce qui a été le plus symptomatique dans l'affaire d'avant ? C'est tout. Les ciblages téléphoniques qui ont été faits. Là, ça n'a pas été fait. Or, une heure ou une heure et demie après, il y a une voiture qui brûle dans un endroit où aucune voiture ne brûle.
À quelques kilomètres de là.
Et on ne cherche jamais s'il y a des bornages téléphoniques qui ont été déclenchés.
On va poser la question en général, parce que vous défendez votre client et c'est bien, bien normal. Ce qui frappe également, c'est qu'on est dans un bois, soir du 10e anniversaire de mariage du couple, restaurant, massage, ils font l'amour. Et puis on se retrouve pour un besoin pressant, dans un bois complètement perdu, à 4 minutes seulement du domicile du couple. Mmh. ce qui peut interroger. Le véhicule est complètement cramé, le corps de la victime, on ne saura jamais de quoi elle est morte. Il fait 97 cm et on a ce mari blessé dans le dos, sans arme. Donc on n'a pas d'arme, pas d'aveu, a priori pas de mobile. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les gendarmes pas d'autopsie. Et, parce que l'autopsie, impossible.
Impossible.
Qu'est-ce qui fait que, quels sont les éléments qui font que, on va dire à François Darcy, monsieur, c'est vous, mise en examen, procès, double procès, deux fois condamné.
Alors, c'est vous, double procès, etc. C'est quand même le juge d'instruction. Évidemment. Qui prend la décision, en son intime conviction, j'ai suffisamment d'éléments pour amener au procès pénal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans l'enquête. Dans l'enquête, c'est reconstruire et essayer de reconstruire ce qui s'est passé minute par minute avec les éléments que l'on peut avoir. Les éléments, vous le disiez tout à l'heure, pour la téléphonie. Et pour être sûr que Monsieur Darcy était là, était bien dans la zone, etc., on s'appuie sur cette téléphonie et la position des téléphones de son épouse et le sien sur place. Maintenant, ce sont les téléphones qui sont présents. Est-ce que les enquêteurs ont estimé qu'il y avait un laps de temps suffisant ou autre en laissant le téléphone à un endroit pour faire autre chose? Donc, en tout cas, ça se construit autour de plusieurs hypothèses. Une agression extérieure, il ne faut pas la négliger, effectivement. Un différend familial ou en tout cas un crime intrafamilial pour une raison ou autre. Et les équipes qui travaillent vont travailler sur les deux. Et à un moment, il peut y avoir un enfermement sur une hypothèse plus privilégiée que l'autre. Le calibre de l'arme qui est déterminé par rapport à la blessure.
222 en l'occurrence.
222 Remington, qui est un calibre spécial pour usage fusil généralement, pour les petits gibiers comme les renards.
Et un certissage, ça Dominique,
Carabine.
Un certissage particulier.
Exactement.
Une balle sous-chargée.
Les balles peuvent être chargées ou sous-chargées, qui peut être utilisé pour le tir sportif.
Ouais.
Donc, ce sont des éléments qui viennent s'accumuler un petit peu. Contre Monsieur Darcy. Mais est-ce suffisant?
Des éléments qui viennent s'accumuler, quand même, à charge. Le couple ne s'entendait plus. C'est un week-end de réconciliation, si possible. Il y avait un peu d'argent à gagner pour lui, puisqu'elle avait une assurance vie, quelque chose comme ça.
Quand elle est brûlée dans la voiture. 200 000 et 400 000 euros.
Combien?
200 des 400 000 euros de l'assurance. 200 000 euros des 400 000 euros de l'assurance vie.
Quand la voiture est brûlée complètement, mais on retrouve sur les bas les vêtements de Madame Darcy de l'huile. Donc à l'autopsie, les légistes vont retrouver de l'huile. Si on serre le bas de Madame Darcy, qui est dans une voiture qui a brûlé, on retrouve un accélérateur de feu. On retrouve cette huile qui suinte encore dans le bas. Donc cette huile n'est pas arrivée toute seule. Quelqu'un a versé de l'huile sur elle pour faire brûler la voiture. Et puis on a son mari qui reçoit, qui a une balle dans le dos, qui est là quand les gendarmes arrivent, qui se plaint de cette balle dans le dos. Effectivement, l'arme n'est pas sur place. L'arme qui l'a blessé, si c'est lui qui s'est fait ça, on devrait retrouver l'arme. Donc quid de l'arme. Et ensuite, oui, c'est compliqué de se tirer une balle dans le dos. Mais sinon, s'il a réussi à résoudre ce problème, qui d'autre que lui?
Moi, j'ai...
C'est ce qu'a dit la justice. La justice a dit, c'est lui, deux fois.
Je n'ai pas des affirmations. Mais si tous les couples qui ne s'entendent pas s'assassinent, on va...
C'est la réponse de l'avocat.
On va avoir un problème de sous-population. Si chaque personne assurée sur la vie, s'il arrive quelque chose, c'est le motif de l'accident éventuel ou de l'assassinat, va y en avoir beaucoup. Je dis simplement, alors l'accélérateur de feu, j'ai pas d'explication. Effectivement, ça ressort du dossier.
Et on peut parler aussi de l'huile de massage, parce qu'ils se sont fait masser. Lui dit qu'il s'est lavé, mais elle, on ne sait pas, par exemple.
Oui, mais il y a surtout une chose, c'est que tant dans la disparition de l'arme, que ce que vous venez de décrire, on a un tout petit problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un scénario tout à fait différent avec un autre véhicule, d'où scène de crime complètement saccagée, d'où, pardonnez-moi et sans aucune agressivité, votre déficience dans le bornage d'autres téléphones dans un coin perdu? Peut-être qu'on aurait eu des révélations et je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de certitude sur l'innocence, mais
il n'y a pas de certitude sur la culpabilité. Et le fait qu'il y ait un faisceau d'invraisemblance, alors on va trouver. Je dirais que quand la justice déraille, c'est pas comme un train. Un train qui déraille, il s'arrête. Quand la justice déraille, elle s'arrête pas, elle continue. On dit pourquoi vous avez acheté un bouquet de fleurs à votre femme, non pas à côté du restaurant de l'hôtel, mais plus près de chez vous. Pourquoi? Enfin, je dirais des choses qui peuvent être lues dans les deux sens.
Bien sûr, maître, c'est ça. Vous représentez sa mère et ses sœurs. Il a deux sœurs, hein. Et puis
et lui
sa mère.
Surtout lui, oui.
Pardon, et lui, merci. Et donc, sa mère, qui est une vieille dame maintenant, hein, va le voir en prison. Vous nous avez raconté, à Ronald, au général et moi, tout à l'heure, juste avant d'entrer ici dans le studio, une anecdote sur sa maman qui lui rend visite en prison, qui est toujours fidèle à son fils. Est-ce que vous nous la raconteriez maintenant?
Mais tout le monde peut imaginer la douleur d'une mère de voir un fils détenu.
Bien sûr. Tout le monde l'entend.
Fils détenu. Dans des circonstances qui sont objectivement choquantes pour cette dame, avec le problème que cela pose sur les deux petits-enfants, mais la détresse d'une mère qui a porté cet enfant, c'était d'essayer d'adoucir, et vous savez ce qu'elle faisait? Elle mettait... Bon, c'est dans le dossier, hein.
Oui, c'est pas
un secret que je trahis. Elle mettait des tomates cerises dans son soutien-gorge pour les donner au parloir à François Darcy. J'en ai les larmes qui me montent aux yeux, parce que c'est objectivement touchant, la douleur d'une mère et d'une grand-mère. C'est touchant. Voilà.
Et voilà. Ça n'en fait pas malheureusement un innocent ou...
Et ça n'en fait pas non plus un coupable. Moi, j'essaie de faire comprendre que la conviction de l'avocat... Il y a des dossiers, bon, c'est pas l'affaire Callas obligatoirement, où on est en croisade sur l'innocence. Mais là, je suis en croisade à propos notamment de la déficience de la culpabilité, de l'établissement de la culpabilité. Il manque le joker pour dire, c'est lui.
Même les meurtriers ont une mère.
Oui.
Et ces mères continuent à aimer leur enfant.
C'est
bien normal.
Votre certitude générale, est-ce que la technologie dont on parle souvent dans l'affaire suivante pourra permettre un jour de répondre à cette question posée, erreur judiciaire ou crime presque parfait?
Alors j'espère. Là où je rejoins l'avocat de François Darcy, c'est que derrière, il manque l'élément principal. Si on retrouvait l'arme telle qu'elle est, là il y aura beaucoup de choses qui seraient débloquées.
Ou la veut.
Ou la veut, effectivement.
De lui ou de quelqu'un d'autre.
Bien sûr. Obligatoirement de François Darcy. Ou de quelqu'un d'autre. On en a vu des affaires comme ça.
Là-dessus, oui, la science peut apporter un certain nombre d'éléments, à condition d'avoir pas mal d'autres, que ce soit de la téléphonie, que ce soit des éléments matériels, etc. En l'état, il y a un faisceau de preuves indirectes, corroboratives. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Elles ont été suffisantes pour que les jurés condamne
deux fois.
Donc la vérité judiciaire a été établie. Ça ne veut pas dire que votre client soit coupable. C'est la vérité judiciaire. C'est hélas la conclusion des procès.
Merci beaucoup, général. Vous restez à votre siège. On va parler d'autre chose dans un instant. Merci beaucoup, Maître Bedouk, d'avoir été sur le plateau.
Merci.
Je vous laisse quitter.
Merci de m'avoir reçu.
Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette affaire qui n'a peut-être pas donné toute sa réalité. Merci beaucoup. On va en passer, Dominique, aux coulisses de la semaine. Et c'est ce soir sur RMC Découvert, 300e numéro de Faites Entrer l'Accusé. Bon anniversaire Dominique, émission que
merci
vous allez
beaucoup,
présenter...
Merci beaucoup, je fais pas mon âge. Hein.
Exactement. avec Christophe Delay, évidemment, consacrée à l'affaire Pastor. Hélène Pastor, héritière d'une famille monégasque dont la fortune est estimée à 12 milliards d'euros, tuée après une fusillade à la sortie de l'hôpital Larchette de Nice. Voici ce que vous verrez ce soir.
L'amour, qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour? Surtout quand il vous rapporte 500 000 euros par mois. Cette affaire, c'est d'abord celle d'une femme qui valait 12 milliards d'euros, Hélène Pastor. L'héritière du plus grand empire immobilier de la principauté de Monaco. Son assassinat en 2014 a fait courir les rumeurs les plus folles dans la principauté.
On parle de mafia russe, enfin voilà, tout et n'importe quoi commence à circuler.
L'affaire va mobiliser 2 services de PJ, 5 millions de lignes téléphoniques, des centaines d'heures de vidéosurveillance à décortiquer.
Et tout ça pour remonter une chaîne de bras cassés.
Pour moi, qui ai 38 ans de carrière en police judiciaire, c'était une première.
C'est le choc des mondes. Les personnes les plus riches de Monaco et les petits voyous de Marseille.
Et en haut de la chaîne, un homme insoupçonnable, consul honoraire de Pologne à Monaco, bienfaiteur à 16 heures, le très riche homme d'affaires Wojciech Janowski. Le gendre, le propre gendre d'Hélène Pastor. Un homme qui adorait sa belle-mère.
J'ai jamais eu belle-mère comme ça. C'est une femme magnifique. Très gentille, très aimable, très chaleureuse, très amicale.
Il l'aimait. Mais il aimait encore plus sa compagne.
Ma femme, que j'aime énormément, est très libérée de la tyrannie méchanceté de ma belle-mère.
L'amour. Vous savez, l'amour. Si vous êtes amoureux, vous faites n'importe quoi. Vous pouvez tuer pour l'amour. Chacun de nous est capable de tuer. Et vous, pouvez-vous tuer quelqu'un ?
Et c'est ce soir de nouveau bon anniversaire. On va accueillir ensemble quelqu'un que vous connaissez, Alexis de la Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, réalisateur de Ce fait entrer l'accusé, notamment consacré à l'affaire Pastor. Avant d'en dire, comment on enquête sur une affaire comme ça ? Comment ça se passe ? Parce que dans un instant, on va oui. proposer, je le vends, mais on va proposer une séquence assez incroyable. C'est-à-dire des aveux filmés. Pardon, je vous ai interrompu, allez-y.
Déjà, on se procure la procédure, le dossier d'instruction. On travaille sur la procédure et puis on essaie de retrouver un petit peu les différents protagonistes de cette affaire. Et après, comme on la raconte, on essaie de mettre en avant, c'est ce qui a été dit dans le petit teaser que vous venez de voir, ce qui fait le sel de cette histoire, la spécificité, c'est-à-dire deux mondes ouais. qui ne se côtoyaient jamais, qui vont se retrouver unis dans une même entreprise criminelle, le double assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur, Mohamed Darwish. Et donc, on a d'un côté les ultra-riches de Monaco et puis les petits voyous marseillais. Donc, dans un premier temps, on reconstitue l'enquête de la police et on a 3 policiers qui ont participé à cette enquête, dont la directrice d'enquête qui témoigne dans le fait entrer l'accusé que vous allez voir ce soir. Et puis, après, on raconte l'ambiance délétère dans cette famille Pastor. Voilà.
En fait, les journalistes de fait entrer l'accusé, comme Alexis de la Fontaine, sont des grands reporters au vrai sens du terme, qui vont faire des grandes histoires, qui vont reprendre depuis le début un dossier. Et d'ailleurs que celle-ci, Alexis, vous avez fait un sacré boulot parce que vous avez non seulement retrouvé des protagonistes qui acceptent de parler, c'est pas facile.
Non.
Comment est-ce qu'on fait parler Philippe Frison, qui est plutôt un taiseux? Comment est-ce qu'on fait parler la commandante dont vous parliez, Catherine?
Catherine Messineo, qui est donc Messineo, la directrice d'enquête.
Qui a pas du tout envie de parler. Comment est-ce que vous allez la convaincre? Vous lui vendez quoi?
Alors, en fait, quand même, fait entrer l'accusé a plutôt bonne presse dans les commissariats. Voilà. En général, les policiers ou les gendarmes.
Les gendarmeries, dites aussi les gendarmes. Parce
oui. que les policiers, les gendarmes. J'ai fait des affaires en gendarmerie avec des gendarmes. Oui, oui. Ont plutôt tendance à nous faire confiance. Après, ce qu'on leur explique, c'est que nous, on leur offre du temps. C'est-à-dire qu'on va raconter cette histoire sur la longueur. Mmh. Et que donc, ils vont pouvoir déployer un petit peu toute leur histoire, toute leur enquête. Et ça, je pense que il y a pas tant de format que ça, comme fait entrer l'accusé, qui permet aux enquêteurs de s'exprimer.
Général, c'est quand même, ça va assez vite, parce qu'on est quand même, c'est des pieds nickelés à Monaco, quoi. C'est véritablement, on est sur, je crois que c'est Christophe qui en parlait avec moi, bras cassé. Enfin, c'est plus de l'amateurisme à ce niveau-là.
Tout à fait. Alors, je vais vous répondre et je répondrai à Dominique après. Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que tout a été très rapidement, tout a été bien fait, et on arrive à une solution très vite. Donc, on a l'impression que c'était très facile. Alors que non, il y a un véritable travail d'enquête. Là-dessus, la police judiciaire a vraiment décortiqué, partant des petits pour monter jusqu'au plus gros, et en étayant systématiquement le dossier avec des faits, avec des éléments indiciels qui ne pouvaient pas être remis vraiment en question. Et la réponse que je ferai à Dominique, et ça c'est pour avoir participé à un interview à plusieurs émissions de Faites rentrer l'accusé, et comme vous l'aviez dit, la réputation et le sérieux fait qu'il n'y a pas de polémique. On parle de ce que l'on a vécu, avec en plus le quitus, que ce soit de la justice ou de nos hiérarchies, qui dit oui, vous restez dans ce qui a été dit, ce que vous avez fait, et on arrive à se livrer comme ça facilement parce que il n'y a pas, comme je disais, je reviens là-dessus, aucune polémique sur le travail des enquêteurs et des personnes qui sont interviewées.
Ce qui, je crois, si je peux me permettre, ce qui est important à faire entrer l'accusé, c'est qu'il y a un credo, c'est qu'on ne juge, on ne raconte que des affaires jugées. Il n'y a plus d'enjeu judiciaire. Et ça, ça permet aussi aux enquêteurs, aux magistrats, de raconter leur affaire sans qu'il y ait.
Ils expliquent ce qui s'est passé, ils le remettent dans le contexte.
Voilà, il n'y a plus d'enjeu judiciaire. Évidemment. Et donc, ils peuvent nous raconter les coulisses d'une garde à vue, les coulisses d'une scène de crime. Voilà, ce qu'on ne voit pas, et c'est ce qui fait l'intérêt de faire entrer l'accusé.
Et comme les affaires sont jugées définitivement, donc tous les recours épuisés, l'appel, ça permet aussi d'avoir accès au dossier et de récupérer parfois, et vous l'avez fait dans ce qu'on va voir ce soir à 21h sur RMC Découverte, d'avoir des pépites. Et dans votre film, il y a une pépite, il y a les aveux filmés de M. Janowski, qui est le gendre de Mme Pastor, on regarde.
Est-ce que vous pensez un seul instant que la police judiciaire aurait pris la décision de vous mettre en garde à vue avec ce que vous posez en tant que terme de pouvoir si on n'avait pas fait la démonstration de A à Z que vous êtes le commanditaire de ce meurtre?
Vous avez tout à fait raison. De toute façon, vous avez bien compris que je vais m'expliquer.
Vous avez commandité ce meurtre, oui ou non?
C'est oui, madame.
D'accord, ok. Comment ça s'est fait avec Doria, qui vous allez nous expliquer?
Je demandais s'il puisse m'aider à résoudre les problèmes avec ma belle-mère.
D'accord. Sous-entendant de l'éliminer.
Exactement. Enfin, c'est exactement.
Ce que je trouve, alors, je suis moins au fait de ces choses-là, mais c'est extraordinaire, l'atmosphère, le bruit derrière, et cette scène absolument surréaliste. Je ne peux pas vous demander comment vous l'avez obtenu, parce que ça vous regarde, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire à laquelle on assiste? Et je poserai la même question au général Daoust, mais avant, qui est ce Doriak dont on parle là?
Alors, Doriak, c'est le coach sportif de Wojciech Janowski, qui est donc le commanditaire, et c'est aussi son masseur, il se voit plusieurs fois par semaine. Et à partir de l'été 2012, Wojciech Janowski va demander à son coach sportif de l'aider à se débarrasser, c'est son expression, à se débarrasser de sa belle-mère. Voilà. Et Doriak, en garde à vue, lui, il a tout balancé, il a tout expliqué. Et donc après, forcément, il a donné des billes aussi aux policiers qui ont mené la garde à vue de Wojciech Janowski.
Ça se passe comme ça, général? Enfin, oui, ça se passe comme ça. Oui, visiblement, mais ça tout se passe toujours comme ça ou pas?
Oui, et c'est le principe de la garde à vue, c'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure, on a eu les images où il parlait de sa belle-mère en termes dithyrambiques, la plus gentille, la plus, etc. Et là, on arrive vers la fin de la garde à vue, où il y a eu pendant 24 heures, voire 40 heures, 30 heures, un enfermement, c'est-à-dire qu'il a été mis, il a dit quelque chose, on lui dit mais non. Ça s'est pas passé comme ça, il y a ça comme élément. Ah, il va sortir un mensonge, et puis un autre mensonge pour se sortir du précédent mensonge. C'est qu'au bout du bout, il ne peut plus rien faire. La pression psychologique est telle que le seul moyen de la lever, c'est la catharsis de la confession, et de dire oui, et voilà pourquoi je l'ai fait, et voilà comment je l'ai fait, et surtout expliquer le pourquoi du comment. Et je pense que on doit avoir les pourquoi. En tout cas, il donne une raison. Est-ce que ça touchait sa femme? Est-ce que ça, il y avait quelque chose? Voilà comment ça arrive. Les gardes à vue se mènent dans ce style.
Et puis dans le film, vous avez aussi, Alexis, réussi à rencontrer Gildo Pastor. Alors Gildo Pastor, c'est le fils d'Alain Pastor, qui vit l'histoire de façon encore plus forte qu'un fils dont la mère a été assassinée, puisque elle vient le voir, il a fait un AVC, il est jeune,
hein,
il a 40 ou 45 ans à l'époque.
C'est ça.
Il a fait un AVC, il est à l'hôpital Larcher, de Nice, voilà. Et elle sort de l'hôpital où elle est allée lui rendre visite, et c'est là qu'elle va mourir. Et Gildo Pastor, il n'avait jamais parlé.
En tout cas, pas sur la longueur, il avait fait des déclarations en marge du procès, comme ça.
Et il est extrêmement touchant quand il parle. Il n'a pas de haine. En tout cas, il parle posément, il parle de sa mère, il parle de cette histoire, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est aujourd'hui. Racontez-nous, comment vous l'avez approché, lui?
D'abord, on a pris contact avec l'une de ses collaboratrices à Monaco. On a eu de nombreux échanges en amont. Encore une fois, pareil, ils connaissent Faites Entrer l'Accusé, ses avocats connaissent Faites Entrer l'Accusé, ils ont choisi de nous faire confiance. L'interview, elle s'est préparée pas mal en amont, et puis après, il nous a reçus très simplement dans un endroit qui... les témoins. Il nous a reçus au Gildo Pastor Center. Donc, c'est un immeuble, un grand building, alors qui porte le nom de son grand-père. D'accord. Parce que Gildo Pastor porte le nom de son grand-père.
C'est une famille qui est arrivée.
C'est une dynastie à Monaco.
Dans l'immobilier, évidemment.
À Monaco, il y a deux familles. Il y a les Grimaldi qui règnent et les Pastor qui bêtissent.
On est d'accord.
Plus riche que les Grimaldi. Plus riche, en fait.
Oui, bien sûr. Hélène Pastor, on l'a dit, pesait 12 milliards d'euros.
Bon. Ça vous a surpris qu'ils vous ouvrent la porte, tous?
Quand je lance une proposition, que ce soit un milliardaire ou que ce soit un anonyme, je fais la même démarche. J'ai été un peu surpris, mais à partir du moment où il m'a dit oui, ça s'est bien passé. Et on a passé une matinée ensemble, et je crois qu'il a pris le temps, oui, de s'exprimer et de nous donner son témoignage en longueur. Quoi. C'était assez touchant. Mais tout milliardaire qu'il est, dans le Gildo Pastor Center de Monaco, c'est le témoignage d'un fils qui parle de sa mère et qui parle aussi de son beau-frère Wojciech Janowski, qui a fait assassiner sa mère. Et donc, c'est un témoignage assez fort.
C'est l'histoire absurde, le type, pardon pour le type, mais Janowski qui fait tuer sa belle-mère alors qu'elle lui donne 500 000 euros d'argent, même de poche. Hein.
Ouais,
elle lui donne 500 000 euros d'argent de poche par mois, et il l'a fait tuer. Il faut être complètement débile, non?
Ah, ça, ce sont les affres et les inconnus des mécanismes cognitifs et psychologiques des gens. Et est-ce qu'il s'est senti acculé parce qu'il avait des affaires et qu'il commençait à aller mal et paraître idiot ou autre? Ouais. Là, je pense qu'on en parlera ce soir très certainement. Ouais. En tout cas, de ce que je connais de l'affaire, il y a un petit peu de ça. Et à un moment, là aussi, la seule échappatoire...
On en veut toujours plus.
On en veut toujours plus.
Ah, c'est...
Ou en tout cas, on veut sauver la face. Il y a plein d'éléments qui sont absurdes et qui conduisent à un crime, hélas.
Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes. Félicitations pour votre travail. C'est ce soir, donc 300e numéro de Faites Entrer l'Accusé. Vous y retrouverez Dominique, qui est partout, consacré à l'affaire Pastor. 300e, et la semaine prochaine...
21h sur RMC Découverte.
Et numéro 289 d'Affaires Suivantes, ce sera dimanche prochain avec Dominique. D'ici là, bonne semaine. C'est Anne Septen qui prend le relais pour l'après-info. Bon après-midi.